France Musique.
Merci Lionel, je vous souhaite un bon week-end de repos et on vous retrouve dès lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris avec vos invités.
This is a electronic instrument that I have
built. Tout ce qu'elles ont entraîné dans l'histoire de la musique.
Moi j'ai besoin de créer.
Tapage nocturne.
Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète.
Bruno Le Thor.
Le violoncelle de mon enfance. Pour le magnétophone.
France Musique.
Et pour le potentiel.
Nous recevrons dans ce tapage nocturne Chapelier Fou, électron libre de la musique électronique. Il nous viendra en compagnie de Maxime Tisserand et Maxime François. Mais je vous propose d'ouvrir cette émission avec le trio du violoniste Erlend Apneset. Pour cet opus, le musicien norvégien virtuose du violon Hardanger, un violon enrichi de cordes sympathiques, s'est entouré de Stefan Meidel à la guitare et aux électroniques et Øyvind Heggelunde, batteur et percussionniste que l'on avait pu entendre aux côtés de Stéphane Oliva. Cet opus, baptisé Ara, est un curieux mélange de musique traditionnelle, de musique baroque et d'un certain avant-gardisme qui cisèle une timbralité surprenante. Extrait avec Sakura, le Erlend Apneset Trio.
Thank you.
Sakura, extrait du disque Ara du Erlend Abneset Trio, un disque qui paraîtra dans quelques jours le 9 mars sur le label Hubro, distribué en France par Aoutir.
France Musique, tapage nocturne, Bruno Le Thor.
À l'occasion de la parution de Muant, ce nouveau disque du Chapelier Fou, nous avons reçu le multi-instrumentiste originaire de Metz avec deux complices, Maxime Tisserand et Maxime François, respectivement aux clarinettes et aux claviers. Dans la session qu'il nous offre ce soir, enregistrée au studio 106 de la Maison de la Radio, il dévoile son univers dans lequel se marient avec subtilité instruments et électronique. Clin d'œil et motifs récurrents sont autant d'éléments que l'auditeur est invité à découvrir et à se réapproprier selon son propre imaginaire. Chapelier Fou est l'invité de ce tapage nocturne.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors vous avez longtemps travaillé seul, bouclant vos phrases, échantillonnant des fresques sonores jusqu'à la création de votre ensemble. Est-ce que la lassitude de la solitude vous pesait ou est-ce que finalement c'est la fin d'un cycle d'expérimentation ?
C'est les deux, avec peut-être ce qui a pesé le plus, c'est peut-être effectivement la solitude et l'anxiété que ça procure. La tournée aussi qui était difficile, seul. J'ai à la fois aimé et détesté me retrouver dans des pays ou dans des contextes que je comprenais pas et dans des situations que je comprenais pas parce que voilà, souvent on me se retrouvait parachuté à faire un concert et à repartir et je le vivais assez mal. J'étais très content d'avoir élaboré mon petit système personnel organisé autour des samples, des auto-samples. J'étais peut-être arrivé au bout, en tout cas, je pensais pas aller beaucoup plus loin. Donc j'ai réalisé un album, qui était l'album précédent, qui s'appelait Delta, en partant directement dans une optique assez différente, et en me disant, ce disque-là, je n'arriverai pas à le jouer seul. Donc soit je trouve une solution, soit je ferai autre chose de ma vie, au moins pour les années qui suivent.
Alors vous êtes venu dans cette émission avec deux comparses.
Tout à fait, avec on a deux Maximes, un hein, qu'on appelle Ultra Chaton pour les raisons de commodité. Donc lui qui s'appelle pour de vrai Maxime François, qui joue de l'alto et des synthétiseurs.
Bonsoir.
Et Maxime Tisserand, qui joue des clarinettes et des claviers.
Bonsoir.
Alors vous avez beaucoup travaillé sur des systèmes de boucles, on vient d'en parler. Ce système n'est-il pas réducteur, écrasant, tant du point de vue du développement que par exemple de la gestion de la tonalité ?
Ouais, je crois que ce système, en fait, il a des raisons d'être qui sont moins musicales que liées à la logistique du musicien. En fait, toute cette musique de boucle, elle est née de cette espèce de courant qu'il y a eu à partir de la fin des années 90, surtout des années 2000, de one-man band, de gens qui s'enregistrent avec des boucleuses pour aussi des raisons économiques, de pouvoir jouer seul, raisons pratiques, jouer dans des bars tout seul. Forcément, ça a des contraintes tonales, parce que forcément, si on est bloqué sur une boucle, on est bloqué dans une tonalité, à moins d'user de subterfuges et d'inventivité, ce qui est des fois une bonne idée en musique. C'est un écueil qu'il est difficile d'éviter. Après, je trouve que c'est d'autant plus vrai pour des gens qui travaillent avec des boucleuses classiques. Ça l'est un peu moins quand on travaille avec un ordinateur qui permet d'avoir des structures plus complexes de morceaux, de voyager dans d'autres tonalités, dans d'autres parties, dans d'autres endroits musicaux, quitte à y retourner par la suite dans un morceau. C'est un peu ce que je fais toujours parce que je continue de me boucler même si le besoin est moins fondamental du fait que je suis entouré. Il y a un juste milieu à trouver et je trouve que l'ordinateur est plus souple à ce niveau-là que les machines du commerce.
Thank you.
Question aux deux Maxime, comment vous avez approché la musique de Chapelier Fou?
Physiquement, tout bêtement, c'était, on s'est rencontrés par un ami commun qui est le sonorisateur de l'équipe live. Et puis on s'est rencontrés chez lui sur le dernier album, lors d'une séance de studio. On ne se connaissait pas du tout. Et ça m'a plu, on est tout de suite parti sur l'optique du live, très peu de temps après en fait. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Nous on s'est rencontrés ados en fait, au conservatoire à Metz. C'était pas la musique électronique, c'était Dvorak à Brahms. On a fait un peu de musique de chambre ensemble. Et puis on s'est retrouvés plus tard autour de notre passion pour les synthétiseurs. On parlait synthé quand on se croisait à Metz, et puis un jour il m'a proposé de monter sur scène avec lui. Oh, j'ai dit oui, et je connaissais pas du tout sa musique à ce moment-là en fait, je l'ai jamais écouté en concert. Donc j'ai appris à découvrir cet artiste, et j'ai dit oui, c'est bien, ouais, j'aime beaucoup, et j'ai apprécié, et j'apprécie de plus en plus ces choses-là. Cette musique que je suis ravi d'interpréter.
On parle souvent de l'originalité de votre son. Comment vous avez sculpté celui-ci ?
Ce qui m'intéresse, ce qui m'a toujours intéressé et ce qui continue de m'intéresser, c'est d'expérimenter des techniques différentes, des techniques alors, oui, de son, pour les apprendre. Quoi. C'est plus dans un but pédagogique au départ. Ça a commencé par le sampling, parce que j'écoutais des musiques samplées, beaucoup de hip-hop, de trip-hop, des choses comme ça, et j'ai voulu comprendre comment ça marchait, donc je me suis mis à sampler moi-même des choses sur des disques. Ça, très bien, c'est presque ma base compositionnelle. Mais sinon, pareil, j'écoutais des musiques plus expérimentales et plus synthétiques. Je pense à Outekr ou à Aphex Twin, des choses comme ça. Ce qui m'a mis dans les synthétiseurs. Après, j'ai voulu faire du live, ou en tout cas, mes amis m'ont poussé à faire du live alors que je faisais des morceaux qui étaient complètement faits sur ordinateur et statiques. Et ben, j'ai commencé à réfléchir à comment faire ça. Donc, je me suis dit, ben, le live, moi, j'ai envie de voir des choses. Quand je vais voir un concert, j'ai envie de voir pas forcément quelqu'un derrière un ordinateur, mais quelqu'un bouger. Et je me suis rappelé à ce moment-là que je fais du violon pendant un temps, que je savais pianoter. Donc c'est là que je me suis intéressé aux boucles et aux samplers pour pouvoir justement incorporer mes instruments primitifs. Et c'est un peu ça qui fait que c'est un grand mélange, parce que je n'arrête pas de m'intéresser à des nouvelles techniques, et voilà, sans aucune idée de cloison. Enfin, c'est quelque chose qui a tendance à ralentir au fil des années, parce que ben on invente moins de techniques nouvelles qu'on a le temps de les apprendre. Je ne sais pas si cette manière de faire pourra durer toute ma vie, mais en tout cas, pour l'instant, ça marche bien.
Vous travaillez avec Stéphane Grégoire, le fondateur du label Ici D'ailleurs. Chez Ici D'ailleurs, il y a une particularité, c'est le travail entre les artistes au sein du label.
J'ai eu l'occasion de collaborer avec pas mal d'artistes, mais après, j'ai mes affinités particulières. Hein. Je pense notamment à Matt Elliott. Matt Elliott qui a chanté, joué un peu sur quelques-uns de mes disques. Lui-même qui a un autre projet plus électronique, plus trip-hop, noise même, qui s'appelle The Third Eye Foundation, avec lequel je l'ai accompagné en tournée aussi. Et puis, bon, il y a des amis que je croise depuis des années, je pense à Gablé, ou Many Fingers aussi, qui fait une musique très intéressante, que j'ai eu l'occasion d'inviter, et qui nous avait aussi rejoint sur la tournée Third Eye Foundation. Alors voilà, c'est des choses qui se croisent, qui se recroisent.
Thank you.
Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
Thank you.
dernier opus discographique est baptisé Muance, une sorte de contraction entre mutation et nuance, mais c'est également un terme musicologique.
Oui, c'est presque plus ça qui m'a inspiré ce titre, même si j'aime bien justement le fait que ça rappelle le mot nuance, mais comme le mot lui-même étant muté. Voilà, ce remplacement du M par, enfin du N par le M. C'est un espèce de fourre-tout, et c'est presque plus la mythologie musicologique plutôt que la véracité vraie du terme. C'était parce que le disque a une idée obsessionnelle qu'il articule, qui est un motif de six notes. Six notes font penser à l'hexacorde de la musique du Moyen-Âge. Et puis cette idée de muance et de changement, c'est quelque chose qui m'a toujours obsédé dans la musique. Je trouve que ce qui m'intéresse le plus dans la composition des morceaux, c'est de changer un peu les motifs, d'avoir un motif mélodique comme un personnage et de le faire muter et de le mettre dans des contextes différents. Voilà un petit peu ce qui explique entre autres ce titre.
Alors vous avez développé également depuis quelque temps l'installation sonore.
C'est vrai que c'est une de mes préoccupations en ce moment. J'ai eu l'occasion de... En fait, j'ai été convié à participer à l'exposition Musique Circus du Centre Pompidou à Metz. On me disait, on voudrait que vous fassiez des interventions en galerie, devant les œuvres. Je crois qu'on s'attendait, on attendait de moi que je fasse de la musique et des morceaux, des choses comme ça. Et j'ai sauté sur l'occasion pour insidieusement faire des installations sonores plutôt que des pièces vraiment musicales, comme on proposait, voilà, et que j'avais un peu carte blanche. En plus, je trouvais ça assez classe de faire ça au Centre Pompidou, mais c'était assez prestigieux, donc voilà. Oui, j'ai travaillé sur des systèmes que Maxime connaît bien, sur des horloges mécaniques qui sonnent des heures irrégulières, sur des installations aussi presque un peu vidéo, donc qui génèrent des images en analysant des sons de synthétiseurs, ou bien des installations plus interactives, mais malgré soi, qui capturent des sons aléatoires à base de radio. Enfin, c'était en hommage à John Cage. Voilà, puis en ce moment, j'ai une grande... un grand chantier, non, c'est très minimal, mais un travail en cours sur... la sonate au clair de lune de Beethoven, que je veux étendre presque à l'infini, aussi bien dans le temps que par le nombre d'interprétations que je souhaite recueillir et diffuser simultanément.
Merci beaucoup, en tout cas, Chapelier Fou, d'être venu dans ce tapage nocturne.
Merci à vous,
et c'est un honneur. Je vous dis, ainsi qu'à vos deux comparses, les Maximes, à bientôt.
À bientôt.
France Musique, Tapage Nocturne, Bruno Le Thor.
Ainsi s'achève ce tapage nocturne. À la technique était ce soir Benjamin Perru, Jean-Benoît Tétu et Nicolas Depagraf, attaché d'émission Soisic Noël, réalisateur Bruno Riomaillard. Il est l'heure de rejoindre maintenant Anne Montaron et sa création mondiale.
À réécouter sur francemusique.fr.